Sur le propos de mariage, je vous dois informer mon cher frère ainsi que ma chère sœur, la comtesse votre épouse, que monseigneur le jeune prince Édouard est toujours dans la même humeur touchant votre fille Philippa, et qu'il ne se passe point de journée sans qu'il ne m'en demande à nouvelles, et que toutes ses pensées de cœur semblent bien demeurer tournées vers elle, et que ce sont bonnes et profitables accordailles qui ont été conclues là, dont votre fille sera, j'en suis sûr, toujours bien heureuse. Je me suis attaché d'amitié au jeune prince Édouard, qui paraît m'admirer fort, bien qu'il parle peu. Il se tient souvent silencieux, comme vous avez décrit le puissant roi Philippe le Bel, son grand-père. Il se peut bien qu'il devienne un jour aussi grand souverain que le roi Philippe le Bel le fut, et peut-être même avant le temps qu'il aurait dû attendre de Dieu sa couronne, si j'en crois ce qui se dit au conseil des barons anglais. Car le roi Édouard a fait piètre figure à tout ce qui survint. Il était à Westmoutier lorsque nous sommes débarqués, et s'est aussitôt réfugié en sa tour de Londres pour se mettre le corps à l'abri. Et il a fait clamer par tous les shérifs qui sont gouverneurs des comtés de son royaume et en tous les lieux publics, places, foires et marchés, l'ordonnance dont voici la transcription. Vu que Roger Martimer et autres traîtres et ennemis du roi et de son royaume ont débarqué par la violence et à la tête de troupes étrangères qui veulent renverser le pouvoir royal, le roi ordonne à tous ses sujets de s'y opposer par tous les moyens et de les détruire. Seuls doivent être épargnés la reine, son fils et le comte de Kent. Tous ceux qui prendront les armes contre l'envahisseur recevront grosses soldes, et à quiconque apportera au roi le cadavre de Mortimer, ou seulement sa tête, il est promis récompense de 1000 livres sterling. Les ordres du roi Édouard n'ont été obéis de personne, mais ils ont fort servi l'autorité de monseigneur de Mortimer, en montrant le prix qu'on estimait sa vie, et en le désignant comme notre chef plus encore qu'il ne l'était. La reine a riposté en promettant 2000 livres sterling à qui lui porterait la tête de Hugh le Despenser le Jeune, estimant à ce taux les torts que ce seigneur lui avait faits dans l'amour de son époux. Les Londoniens sont restés indifférents à la sauvegarde de leur roi, lequel s'est entêté jusqu'au bout dans ses erreurs. La sagesse eût été de chasser son Despenser, qui mérite si bien le nom qu'il a. Mais le roi Édouard s'est obstiné à le garder, disant qu'il était instruit assez par l'expérience passée, que pareille chose était survenue autrefois au sujet du chevalier de Gaveston, qu'il avait consenti à éloigner de lui, sans que cela eût empêché qu'on tuât par la suite ce chevalier et qu'on lui imposât à lui, le roi, une charte et un conseil d'ordonnateur dont il n'avait eu que trop de peine à se débarrasser. Le Despenser l'encourageait dans cette opinion. Et ils ont ascondi versé force larmes sur le sein l'un de l'autre. Et même le Despenser aurait crié qu'il préférerait mourir sur la poitrine de son roi que de vivre sauf à l'écart de lui. Si bien qu'ils sont restés, chacun les abandonnant à leurs vilaines amours, entourés seulement du Despenser le Vieux, du comte d'Arundel, qui est parent au Despenser, du comte de Warren, qui est beau-frère d'Arundel, et enfin du chancelier Baldock, qui ne peut que demeurer fidèle au roi, vu qu'il est si unanimement haï que partout où il irait, il serait mis en pièces. Le roi a cessé bientôt de goûter la sécurité de la tour. Et il s'est enfui avec ce petit nombre pour aller lever une armée en Galles, non sans avoir fait publier auparavant le 30e jour de septembre les bulles d'excommunication que notre Saint-Père le Pape lui avait délivrées contre ses ennemis. Ne prenez nulle inquiétude de cette publication, très aimés frères, si la nouvelle vous en parvient, car les bulles ne nous concernent point. Elles avaient été demandées par le roi Édouard contre les Escottes, et nul n'a été dupe du faux usage qu'il en a fait. Aussi nous donne-t-on communion comme avant, et les évêques tous les premiers. En fuyant Londres, si piteusement, le roi a laissé le gouvernement à l'archevêque Reynolds, à l'évêque John de Stratford et à l'évêque Stapledon, diocésain d'Exeter et trésorier de la couronne. Mais, devant la hâte de notre avance, l'évêque de Stratford est venu présenter sa soumission à la reine Isabelle, tandis que l'archevêque Reynolds, depuis le Kent où il s'était réfugié, envoyait demander pardon. Seul donc l'évêque Stapledon est demeuré à Londres, croyant s'y être acquis par ses vols des défenseurs à suffisance. Mais la colère de la ville a grondé contre lui, et quand il s'est décidé à fuir, la foule jetée à sa poursuite l'a rejoint et l'a massacré dans le faubourg de Cheapside, où son corps fut piétiné jusqu'à ne plus être reconnaissable. Ceci est advenu le 15e jour d'octobre, alors que la reine était à Wellingford, une cité entourée de remparts de terre où nous avons délivré messire Thomas de Berkeley, qui est gendre à monseigneur de Mortimer.